À tout de suite, qui commence d'abord par un bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est O2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui Anne-Charlotte Guillem et Dimitri Grenoff à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestuccia qui réalise l'émission. Avec tout d'abord une humeur qui est dédiée à cette voix.
Je pense que les scientifiques aujourd'hui sont dans une situation un peu délicate. Beaucoup ont voulu être scientifiques parce qu'ils voulaient un monde certain, ils voulaient des preuves, des choses. Et puis ils ont basculé dans l'improbable, l'aléatoire, et dans des choses qu'ils ne maîtrisent absolument plus. Et ils sont en pleine poésie. Et je dis que la science, c'est la poésie des gens qui ont peur de la réalité d'une certaine façon. Alors ils se sont réfugiés là-dedans. Mais ils sont en pleine poésie, alors ce qu'ils acceptent me fascine.
La voix dans notre oreille en coin, la voix de l'autoradio qu'elle est sur fibre dans les embouteillages parisiens, la voix de celle qui nous invite à découvrir sa collection de personnages insolites, la preuve par le sourire que la vie n'est jamais ordinaire. Chris qui nous refait en 40 ans de radio le portrait de l'espèce humaine. Un portrait assez croustillant, hein, de l'homme tendance roseau-pensant, mais parfois pas trop. Aussi pour les individus déboussolés par un monde compliqué et fatigué de réfléchir, Chris nous a inventé les coopératives d'identité. Celles qui fournissent gratuitement une identité à ceux qui en font la demande. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, car la coopérative fournit à ses membres toutes les idées dont ils ont besoin. C'est donc une version grande distribution de l'émotion, du prêt-à-penser et du prêt-à-penser évidemment en boîte. Chris la rebelle aussi parce qu'il est des fatalités auxquelles décidément on ne peut pas se résoudre. Comme le milliard d'ailleurs d'êtres humains qui ne trouvent toujours pas à se nourrir sur notre planète, alors qu'on nous promet depuis des dizaines d'années de mettre les moyens sur la table pour que chacun mange à sa faim. Sauf qu'il n'existe pas de bachelot des ventres vides ni de campagne de vaccination contre les famines. Qui plus est, la faim dans le monde, ce n'est pas très médiatique et entre deux rafales de pubs pour les produits allégés, comme on dit, ça le fait pas. On notera qu'au sommet de la FAO à Rome cette semaine, eh bien Berlusconi était le seul sur la photo de famille. Bref, de Rome à Copenhague, énergie, climat, nourriture, l'agenda international est chargé pour les prochaines années, mais c'est au pied du mur qu'on voit les civilisations nouvelles, donc rien n'est impossible. On souhaite donc la bienvenue au premier président permanent du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy, celui qui parlera pour nous à partir du 1er décembre. Et comme dirait Henry Kissinger aujourd'hui, l'Europe existe parce qu'elle a une voix. Chris, avec sa voix de 20 ans, elle s'essayait à multiplier les cellules du bonheur. Quand il pleuvait, elle voyait le soleil. Dans le cynisme du monde, elle voyait l'altruisme. T'avais un coup de blues, t'appelais Corinne. Cette femme-là, vous savez, je pense qu'elle sera réincarnée en tournesol. Et c'est un jour d'automne qu'elle est partie. Un jour de feuilles qui volent, de feuilles qui mettent leurs plus beaux habits dorés au moment de quitter la vie. Alors nous ferons pour toi, pour les enfants, pour nous tous, la suite du parcours du cœur battant. La météo, ça, on connaît depuis très longtemps. Mais quel climat voulons-nous? Et oui, puisqu'aujourd'hui, nous sommes co-gestionnaires de cette affaire, la nature et l'être humain. Quel climat voulons-nous? Climat, pourquoi la planète sera peut-être sauvée? C'est donc le numéro spécial de Courrier International. Et je reçois avec beaucoup de plaisir le chef du service Sciences et Environnement de Courrier International, Eric Glover. Bonjour.
Bonjour, Denis.
Homme qui connaît évidemment aussi parfaitement la radio et cette maison. Le but de ce numéro?
Alors, le but de ce numéro, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que Courrier International veut dire, c'est ce que dit la presse de la planète, c'est-à-dire il y a une chance de faire quelque chose pour la planète. Ce n'est peut-être pas à Copenhague que ça se fera, mais ça sera dans la maison, dans la tête de chacun d'entre nous que ça se fera, que ce soit en Indonésie, en France, en Allemagne ou aux États-Unis.
Alors on y reviendra parce qu'on a évidemment cette échéance très importante de Copenhague, mais il y a aussi donc une suite, on verra ça donc avec Pierre Radan, on aura des témoignages, on vous emmènera au Mali, on vous emmènera au nord du cercle polaire, et puis tout de suite, comme vous connaissez Jean-Marie Pelt évidemment.
Bien sûr. Ouais, voilà.
Donc, alors là c'était il y a quelques temps, c'était chez lui, comme on aime bien faire, c'était une petite balade dans son jardin de Moselle. Allez, on est parti, on a improvisé, c'était avec Jean-Marie Pelt. Petit intermède avec Jean-Marie dans son jardin, en Moselle, en Lorraine. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis.
Qu'est-ce que vous regardiez?
C'est l'amour en cage, ou ça s'appelle l'alkékange, en latin le physalis. En français, ça s'appelle aussi le coquerel. Ça a beaucoup de noms. Pourquoi ça a beaucoup de noms? Parce que c'est une plante qui intrigue. Parce qu'elle a la bizarre idée de mettre son fruit, qui est une petite baie, très riche en vitamine C. Elle le met dans une petite lanterne.
Voilà, on dirait un petit lampion.
Le petit lampion, c'est des petits lampions. Question. En quoi ce petit lampion sert les intérêts de la plante? Puisque les oiseaux ne peuvent pas aller manger la baie, donc ça retarde son avenir, sa propagation,
et sa rapidité. Stratégie.
Voilà, alors c'est une colle qu'on va poser à Darwin. Oui. Darwin n'en a pas parlé. C'est ces problèmes qu'on se pose quand on voit que certains organes paraissent plutôt gênants qu'utiles. Alors, on pourrait dire, non, ils ne sont pas gênants du tout, ils sont magnifiques, on en fait des bouquets. Mais ça, c'est pour nous.
Oui. Et la plante se fiche totalement d'être mise en bouquet.
Totalement. Mais pour elle, est-ce qu'elle a un avantage à s'enfermer dans ses petits lampions, à enfermer son fruit dans les petits lampions? Je ne sais pas quel est l'avantage. On ne sait pas tout. On fait semblant de tout savoir.
Alors là, on va changer de coin avec vos mirabelliers. Et on le rappelle, vous êtes en belle année, parce que parfois, c'est pas tous les ans.
Il y avait beaucoup de mirabelles et beaucoup de quetsch, qui est une prune violette spécifique de notre région, qui n'est pas une prune ronde, mais qui est une prune allongée.
Et alors certains vont vous dire, attendez, plantons des mirabelles, ça fait partie de l'économie verte. Parce qu'aujourd'hui, tout est économie verte, vous avez remarqué.
Oui.
Donc ça, on attend.
Même
donc,
la croissance est devenue verte.
Croissance verte, économie verte.
C'est bien de se rapprocher de la nature, c'est bien de penser durable, c'est bien de penser aux générations futures. Et c'est pas bien de continuer à penser que le capitalisme est la seule forme d'existence de l'humanité. Ça, c'est pas bien. On a vu dérailler spectaculairement. Et je suis quand même très frappé du discours que j'entends soir après soir à la télé, dans les journaux tous les jours, du nombre d'économistes et de politiques qui, sans le dire, ne demandent qu'une seule chose, c'est que tout continue comme avant. Il ne faut pas que ça continue comme avant. Et je voudrais dire qu'il existe l'économie solidaire, qui est un autre système économique qui marche très très bien. La Maïf, la Massif, tout ça, ça marche très très bien. Les mutuelles de santé, ça marche très très bien. Ça ne marche pas sur le modèle capitaliste. Ça représente 13% du produit intérieur brut en France, ça représente plus de 2 millions d'emplois. C'est un autre système moral. Et moi, je crois que le capitalisme est immoral. C'est-à-dire que l'idée que c'est celui qui détient les capitaux qui est le maître et qui loue, c'est comme ça qu'on parle dans le langage de l'économie, la force de travail des salariés, lesquels se font virer quand on a envie de déplacer l'usine en Lituanie, c'est immoral.
Vous avez à peu près en moyenne tous les jours 3200 milliards de dollars qui circulent sur la planète en échange. Et sur ces 3200 milliards, vous avez moins de 5% qui correspondent à des échanges de biens matériels, de biens réels et de services.
Oui.
C'est-à-dire que tout le reste, c'est effectivement, c'est de la finance qui circule.
Oui, c'est spéculatif. Pourquoi, l'année dernière, subitement, les prix agricoles ont flambé? Et pourquoi il y a eu des émeutes de la faim? La raison, c'est que 4 entreprises mondiales, dont personne ne connaît le nom, spéculent sur les aliments et sont les maîtres du marché des aliments, ce qui est profondément immoral. Et je pense que ce type de spéculation, ça consiste à stocker, à faire monter les prix par le stockage, et quand les prix sont en haut, à déstocker juste ce qu'il faut pour qu'ils ne descendent pas trop, c'est pas moral. Alors, il faudrait que les G14 ou 20 s'emploient un jour à dire que c'est les politiques qui doivent prendre leurs responsabilités, que ce n'est pas les économistes qui doivent mener le monde, ni les financiers. Alors, moi, je crois que ça viendra. Parce que les systèmes s'effondrent par leurs excès. C'est connu dans l'histoire des civilisations. C'est la fameuse thèse du grand historien anglais Toynbee qui disait « Les civilisations s'effondrent non pas parce que les barbares les menacent à leurs frontières, mais parce qu'elles n'ont plus la force interne de faire face à cette arrivée des barbares dans la mesure où les choses se sont dégradées à l'intérieur. »
Jean-Marie, on est au bord je veux dire de votre champ. En fait, c'est pas votre champ, hein. On est dans la limite de votre terrain que vous avez jamais voulu fermer, hein. C'est une chose.
Non.
Ça, le béton vert, le tuya là où tout le monde s'enferme, c'est pas votre truc du tout.
Non, 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 mais je voulais regarder la vue qu'on a, qui est magnifique, oui. les lointains tout autour. Je voulais qu'on garde cette vue et je pensais que c'était pas nécessaire de nous enfermer. Et d'ailleurs, le champ, c'est le champ de nos voisins. Donc je suis très content d'être hébergé par le champ de mes voisins.
Voilà, alors cette année,
qui sont cultivateurs et qui sont des cultivateurs très, très responsables et des très bons amis à nous.
Alors là, vous avez du maïs, mais il n'est pas irrigué, hein, c'est la pluie du ciel.
Non, non, tout à fait. Non, non, il n'est pas arrosé, celui-là.
Alors pour que tout aille mieux quand même, en France et ailleurs, il faut travailler le dimanche. Maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, on va peut-être enregistrer nos séquences aussi le dimanche, Jean-Marie, dans votre jardin.
Ah, je trouvais ça une tellement mauvaise idée. Je trouve ça pas bien. Il faut des temps comme celui que nous avons en ce moment, qui est un autre temps. Là, vous n'êtes pas pris d'une frénésie d'aller prendre un caddie maintenant. Regardez ce soleil qui se couche, qui est merveilleux. Ce coucher de soleil splendide qu'on a ce soir. Il faut un peu de temps pour tout ça. Il ne faut pas avoir la fièvre acheteuse. Oui. La fièvre acheteuse.
Alors Jean-Marie, là, ce sont des érables qui ne seront pas aussi rouges que ceux du Canada.
Là, c'est intéressant. On peut finir sur cette idée que dans un groupe de plantes précis, il y a de nombreuses espèces, qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. On peut les distinguer par leur morphologie, comme ont fait les botanistes depuis 400 ans, qu'on peut les distinguer aussi par leur chimie. Alors, il y a des érables qui ont beaucoup de carotène, c'est en Amérique du Nord, et puis il y a les nôtres qui n'ont pas beaucoup de carotène et qui deviennent tout à fait jaunes, mais pas rouges du tout. C'est la distinction entre les espèces, et rappelons qu'il y a 250 000 espèces de plantes vertes.
Alors nous avons, je ne sais pas si c'est 250 000 espèces de chats, mais vous avez... Votre chat, son prénom, c'est...
C'est Félix.
Ah bah oui, Félix, bien
oui,
sûr.
Félix, le chat. Ah, oui. Félix, ça vient de Félix, c'est le nom latin.
Oui.
Et Félidés, c'est la famille des félins.
C'est lui qui m'a bouffé d'ailleurs mon thon.
Oui, pareil.
Hier soir, là, sur l'assiette qui était prête.
Il paraît.
Il a laissé la tomate consciencieusement et les œufs.
Oui.
Il a bouffé le thon.
Oui, ben ça prouve quoi?
Ben qu'il fait très bien son boulot.
Mais ça prouve que la nature, c'est une affaire qui marche. C'est extraordinaire la nature. C'est vraiment une affaire qui marche. Parce que il y a quand même dans la nature quelque chose qui ressemble à de l'intelligence. Et comme c'est très complexe le fonctionnement, on ne peut même pas faire des plans avec des modélisations sur ordinateur pour dire voilà comment elle marchera désormais,
voilà.
Comme nous le voulons nous. Ben, on est incapable de faire ça. Et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ben, écoutez, il faut se lever de bonne heure.
Avant de se lever de bonne heure, on va se quitter et puis on va apprécier ce coucher de soleil là, chez vous, en Moselle. À bientôt Jean-Marie, au revoir.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Laissez parler les petits papiers à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'harmonie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant l'octant, laissez glisser papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent, machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, c'est lui qui touche papier du mouche. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout, laissez parler, petit papier. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il le soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'harmonie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
Ben non, c'est pas Régine, mais c'est bien France Inter, vous l'avez bien compris, donc CO2 mon amour, avec Eric Glover, qui est le responsable sciences et environnement de Courrier International, avec vraiment ce numéro spécial qui pose très très bien le problème et qui débute, je dirais, par une carte tout à fait intéressante. C'est pas la plus joyeuse, Eric Glover, mais c'est les pays les plus vulnérables face au changement climatique.
Oui, tout à fait, c'est une carte, une exclusivité que nous avons eue, et c'est assez intéressant de voir comment on aurait un sentiment rapidement de voir comme danger n'est pas effectivement celui qui est. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'Australie et de ses sécheresses, par exemple. Il y a effectivement des sécheresses en Australie. On fait une carte, d'ailleurs, sur les problèmes particuliers de l'Australie. Mais il se trouve que un classement qui a été donc opéré par une entreprise un peu spécialisée montre que, malgré tout, l'Australie, elle a peut-être de gros problèmes climatiques, mais un gros avantage, c'est que c'est un pays riche et développé. Oui. Et donc, du coup, elle peut y réagir. Et c'est une composante que l'on n'a pas toujours en tête, c'est les catastrophes climatiques. Il n'y a pas que le climat, il y a aussi la capacité d'un pays à y réagir. Et ça rentre pour beaucoup dans cette évaluation du risque. Il est évident qu'aujourd'hui, le risque pour le Bangladesh, les Vanuatu, les Kiribati ou les Maldives est beaucoup plus fort que pour l'Australie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de réagir. Les Australiens l'ont. Accessoirement, ramener par habitant, la pollution par habitant, l'Australie est l'un des 3 ou 4 premiers pollueurs de la planète.
Et aux premières loges, on a l'Afrique.
Absolument, c'est ça. Sur la carte, on voit que les plus mal lotis sont les Africains, dans un peu tout, malheureusement, et sur le climat également.
Alors, chapitre 1, avec Pierre Radan, que vous connaissez, qui est expert en climat, énergie et aussi négociateur, d'ailleurs pour le compte de pays africains pour Copenhague, on va voir quels sont les enjeux, parce que cet homme-là a vraiment aussi un grand mérite, qui est celui de la clarté. On a déjà eu 2 traités sur le climat. La Convention de Rio, c'était en 92. Là, on reconnaît le changement climatique et on se dit qu'il faut agir. Bon, on a besoin d'une petite piqûre de rappel pour le passage à l'action. Ça s'est appelé donc Kyoto. Kyoto qui expire en 2012. Et donc, Copenhague prépare la deuxième période d'engagement de ce protocole de Kyoto pour la période 2012-2020. Donc, autrement dit, comment refaire la liste des engagements de chacun. Mais là, on a eu des sujets nouveaux qui sont arrivés sur la table. On a eu d'abord les premières conséquences des changements climatiques, les forêts équatoriales avec la déforestation, les transferts de technologies qu'il faut effectuer rapidement pour les pays les plus pauvres. Donc on a des sujets nouveaux qui se sont, je dirais, accumulés. Et pour engager cette négociation, il y avait plusieurs points d'entrée. On va dire qu'on en a listé 5. On est un peu en panne sur 4, mais ce n'est pas définitif. Le climat de confiance, on le comprend bien pour Copenhague, est un peu perturbé aujourd'hui. Pierre Radan, quelle est la première piste?
La première piste qui a été étudiée, c'était il y a 2 ans, lors de la réunion à Bali, qui faisait suite au rapport des scientifiques. Rappelez-vous, à l'époque, ils avaient eu le prix Nobel avec Al Gore sur les études qu'ils font sur le climat. Et les scientifiques nous ont dit, en 2007, il ne faut pas qu'on ait un réchauffement supérieur à 2 degrés, parce que au-delà de 2 degrés, on a d'énormes dégâts sur l'environnement, et on a surtout une distribution de l'eau sur la planète qui va être terriblement inégalitaire, et que les zones qui manquent d'eau aujourd'hui vont en avoir encore moins. Alors la Méditerranée, le Sahel, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Australie. Bon. Et donc à ce moment-là, on a un effondrement de la production alimentaire. Comme la population humaine va augmenter de moitié d'ici le milieu du siècle, même si les taux de natalité sont en train de diminuer, mais il y a quand même une inertie dans cette affaire, donc on aura un problème alimentaire grave. Bon, donc pas plus de 2 degrés de réchauffement. Et donc les scientifiques sont arrivés devant les négociateurs, les représentants des pays, en leur disant, écoutez, il faut que vous votiez le climat sur Terre dans ce siècle, dans le prochain traité. Vous devez voter pas plus de 2 degrés de réchauffement. Et donc, pour arriver à ça, il va falloir que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, on les divise par 2 au niveau mondial. Et cette division par 2 va engager toute l'humanité, tous les pays. Mais alors, à ce moment-là, ça pose un problème. Les pays les plus pauvres ont dit, mais écoutez, nous, on veut bien être solidaires avec vous sur le climat. Mais on ne peut pas signer un engagement de division par 2 des émissions de gaz à effet de serre si on n'a pas la certitude de réussir notre développement d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on va promettre à nos populations? Et bien évidemment, malheureusement, ce travail-là n'a pas été fait. Bon. Deuxième entrée, le protocole de Kyoto. Les pays devaient réduire leurs émissions. Alors l'Europe va y arriver. Moins 8% en 2012, on va y arriver. Mais tous les autres sont dans les choux. Les Américains ne veulent toujours pas signer le protocole de Kyoto. Alors là, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais l'équipe d'Obama va bosser sérieusement sur le climat. Mais ils ont un autre problème, qui est un problème de nature politique. Les États-Unis ne veulent pas être contraints par des traités dans le cadre de l'ONU qui comporte des sanctions.
Et ça s'est toujours passé dans l'histoire, d'ailleurs.
C'est pas lié à l'équipe Bush ou à l'équipe d'Obama, c'est une permanente de la diplomatie américaine. Ça ne pourra pas tenir. Mm-hmm. Mais on en est aujourd'hui là. Les États-Unis n'ont pas signé l'interdiction des mines antipersonnelles, n'ont pas signé le tribunal pénal international. Ils ne veulent pas, pour la même raison, signer le protocole de Kyoto. Donc on est coincé. Et donc l'idée que les pays industrialisés soient solidaires, sérieux, prennent des engagements et construisent le climat de confiance dans la négociation, bah pour l'instant, c'est râpé. Bon. Troisième entrée possible, bah par l'argent. Est-ce que les pays industrialisés peuvent mettre de l'argent en direction des pays en développement, en direction des pays émergents, pour que l'ensemble de la communauté humaine se mette en mouvement, avec encore une fois cet objectif de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre? Le problème, c'est que la crise financière est tombée au plus mauvais moment. La moitié de la capitalisation boursière mondiale a disparu en un an, la moitié. Les États ne savent pas comment va se passer leur activité économique à la fin de cette année et l'année prochaine. Et donc, depuis plusieurs mois, la négociation patine sur ce sujet-là. Personne ne dit quelle est sa contribution financière pour aller chercher l'accord. Et donc là-dessus, on est encore coincé. Quatrième entrée, alors elle était moins sérieuse et moins profonde. Les États-Unis ont essayé d'aller chercher des accords séparés.
Oui.
Ne pas passer par le système de l'ONU, même si seule l'ONU peut produire du droit. Donc d'aller des négociations alors au G8, d'aller voir les grands pays émergents, les Chinois et les Indiens, et bien évidemment, aucun de ces pays ne veut avoir un accord séparé avec les États-Unis. Bon, les Chinois, dans cette affaire-là, sont quand même au centre du jeu.
Hein.
Les Chinois, à la fois, sont du côté des pays industrialisés, puisqu'une grande partie de ce qu'il y a dans nos supermarchés vient de chez eux, et puis de l'autre côté, derrière, ils sont solidaires des pays en développement, et ça leur donne bien évidemment un poids politique considérable.
Bon. Donc il nous reste une cinquième entrée.
Donc il nous reste une cinquième entrée qui est sérieuse, mais pas encore mature. Ça consiste de dire, il faut sur cette affaire-là que chacun se mette à l'action. Et se mette à l'action sur son pays, sur son territoire. Et que pour que les pays en développement se mettent en mouvement sur cette affaire-là, eh bien, il faut financièrement les intéresser à l'action. Et donc, on est sur l'idée que chaque pays devrait élaborer un plan national climat, toute une série d'actions. Et en fonction des actions qu'il choisit de conduire, eh bien, aller voir dans le cadre des Nations Unies les autres pays pour faire en sorte que ces autres pays concourent financièrement à la réalisation de son programme. Et donc, on est dans une logique qui est une logique très morale, argent contre action.
Oui.
Et donc probablement que la négociation à Copenhague ira au mieux vers un accord politique. Donc les chefs d'État, en fin de semaine, juste avant Noël, vont
sortir au mieux, de la haute,
oui. Au mieux faire un texte politique, qui est un texte d'engagement. Et puis derrière, il faudra encore ficeler tout ça dans le détail. Et à ce moment-là, il est très probable qu'on nous remettra au boulot en 2010 pour que ça prenne la forme d'un traité juridique rédigé dans le détail et qui sera ensuite soumis à la ratification des parlements. Et puis, toute cette machine-là doit être mise en œuvre pour le 1er janvier 2013 pour prendre la suite des engagements du protocole de Kyoto.
Il y a beaucoup d'ONG qui, à juste titre, effectivement, se bougent, s'agitent autour de ce thème-là pour pousser nos politiques de plus en plus. C'est une des méthodes qu'il faut effectivement employer.
Oui, mais les ONG ont souvent fait une grosse erreur. Elles ont mis en avant, et ça se comprend, les enjeux climatiques, donc la nécessité absolue de stabiliser le climat sur Terre. Mais elles ont été extrêmement lentes à comprendre que derrière cette affaire-là, c'est quand même une énorme discussion nord-sud. Oui. Le 21e siècle sera très durement jugé par l'histoire. Aucun siècle n'a créé autant de richesses, aucun siècle n'a créé autant d'inégalités entre les peuples. Et on a aujourd'hui un énorme problème. Comment voulez-vous que l'on gère solidairement la planète alors que vous avez encore 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, et on va leur demander d'être solidaires vis-à-vis de nous par rapport à une gestion de la planète, alors qu'ils sont encore dans des misères terribles. Donc le problème auquel on est confronté, c'est qu'il faut trouver un accord dans lequel les pays riches et les pays en développement s'engage vers une voie commune, et ce qui veut dire qu'on prend sérieusement la question du développement. Et on ne peut pas avoir un accord sur l'environnement si on n'a pas la prise en charge de cet énorme problème social qu'est le problème des pays en développement, et donc de les pousser et d'inventer avec eux une nouvelle manière de vivre dans ce siècle dans lequel les pays réussissent leur développement, mais en utilisant moins de combustibles fossiles, en émettant moins de gaz à effet de serre. Et vous voyez que là, il y a un travail de conception, d'élaboration, de mise en pratique qui va forcément prendre des décennies et qu'on a malheureusement extrêmement mal anticipé. Et il est possible que la négociation de Copenhague aboutisse sur un échec, que, je dirais, ça coince complètement, à savoir, notamment du fait de la crise financière, les pays industrialisés prennent des engagements trop faibles, mettent trop peu de contributions, rechignent à des transferts de technologie, et qu'à ce moment-là, les pays en développement disent ah « bah écoutez, nous le compte n'y est pas, on peut pas signer dans ces conditions-là ».
En plus, on est en souffrance, et pendant cette crise, on vous a quand même vu renflouer un certain nombre d'industries, qu'elles soient financières ou autres, et vous ne l'avez pas fait avant pour nous non plus.
Oui, et il y a un certain nombre de responsables des pays en développement qui disent, et c'est une leçon paradoxale de la crise, les pays industrialisés ne sortent de l'argent de la poche qu'en situation de crise. Et donc finalement, vous avez des responsables aujourd'hui qui disent un échec à Copenhague ne serait pas grave parce que ça obligerait la négociation à revenir sur des engagements plus sérieux. Et dans ce cas-là, on aura en 2010 un rendez-vous dans lequel les pays viendraient avec des offres plus satisfaisantes qu'aujourd'hui, où certains, font des efforts, à minima. Bon, et le climat de confiance aujourd'hui, on est à 3 mois de Copenhague, le climat de confiance n'est pas aujourd'hui, il n'est pas là. Il y a un énorme climat de méfiance, et les sujets, toutes les voies d'entrée que je vous ai listées, il y en a sur aucune sur laquelle il y ait un accord aujourd'hui stabilisé.
Merci Pierre Haddad, donc toujours ce souci de la pédagogie et de la clarté, donc les enjeux aujourd'hui de Copenhague, et Éric Lovert, donc dans Courrier International, vous avez un chapitre, un échec, quelle importance pour l'interrogation ?
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un article d'ailleurs australien, Australian Review, qui se rend compte de ça. Alors je reprécise juste que la semaine dernière, il y avait un sommet de l'APEC, où l'Australie était d'ailleurs présente, et à la sortie de ce sommet de l'APEC, où les Chinois et les Américains ont émis leurs vœux pour Copenhague qui était faible, le Bangkok Post, un journal thaïlandais, était en rage. L'éditorial disait, mais on en a marre, on sait qu'il faut faire quelque chose, prenons-nous par la main, et vu le niveau de ce que réclament aujourd'hui les Chinois et les Américains, autant annuler Copenhague et puis se mettre à bosser tout de suite sur autre chose, parce que ça va servir à rien. Et donc c'est un peu cette idée-là qui est, on doit faire quelque chose. Copenhague, finalement, a été présenté depuis le début comme une espèce d'aboutissement, et en réalité, This Year's Friend Review, c'est le début.
Oui.
Et donc, il faut surtout pas le voir et comme un aboutissement. Et notamment, un des arguments importants, c'est une des raisons pour lesquelles ça peut échouer, c'est il n'y aurait que 6 ou 7 grands pollueurs. Ils font la liste, ils disent, voilà, si on prend la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Brésil, le Japon, on a 49% du CO2 émis.
Uniquement avec les 6. Hein.
Voilà, uniquement avec les 6. Vous ajoutez l'Union européenne et les 27 pays de l'Union, on arrive à 69%. Oui. Donc, ce que dit Your Friend Review en disant, mais si cela déjà décide de faire quelque chose, accord, pas accord, si juste eux décident de se prendre par la main. Or, dans le journal, on parle de la doctrine Hatoyama, c'est-à-dire le nouveau premier ministre japonais. Ce premier ministre japonais s'est fait élire sur un programme clairement environnemental. Pas que ça, mais ça. Et il a tout de suite dit, on veut être des leaders. Le Japon doit être un pays leader. Ça sera 25% en dessous des normes dites de l'année 90, l'année de référence du protocole de Kyoto. On va aller pour ça. Pour l'instant, ils n'y arriveront pas en 3 mois. Hein. Il a été élu au mois d'août, il prend ses fonctions au mois de septembre. Mais il y a une volonté qui est là. Les Indiens sont parmi les plus petits pollueurs, même s'ils font partie de ces grands-là, dans la catégorie des grands, ils sont dans les petits. Le Brésil a annoncé...
Sans compter qu'il y a c'est aussi un pays, alors ça s'ajoute, alors je parlais des céréales de la famine, puis c'est un pays où on mange très peu de viande.
Exactement.
Et plus de la moitié aujourd'hui des céréales cultivées dans le monde qui servent à nourrir donc du bétail.
Exactement. Nous avons dans le journal, encore une fois, la pollution, les gaz à effet de serre émis par pays, ramené par habitant. Alors évidemment, comme il y a beaucoup d'Indiens ou beaucoup de Chinois, ça joue. Mais malgré tout, quand on regarde ou en valeur absolue ou en valeur ramenée par habitant, les pays où ça c'est le moins de gaz à effet de serre par habitant, c'est l'Inde, hein, clairement. Et pour cette raison. Donc les Indiens sont très durs sur leur position, est très très dure. C'est-à-dire ils disent, nous on ne fera rien si l'Occident ne bouge pas. Mais ils disent aussi, on est prêt à bouger si l'Occident donne des gages. Exactement ce qui venait d'être décrit. Ensuite, dernière chose que The Australian Review déclare, c'est « N'oublions pas les travaux de Michael Porter et Klaas van der Linde, deux économistes qui, par leurs recherches en 90 et en 95, ont montré quelque chose qui est très important, l'inefficacité environnementale est un signe d'inefficacité économique.
Ah. »
Donc ça, c'est une donnée... Alors ce sont des travaux dont on ne parle pas, parce que ça embête plein de gens dans l'économie, mais ça veut dire profondément, quand vous êtes nul en environnement, vous n'êtes pas bon en économie.
En économie, oui.
Et les Chinois le savent, ça. Ils sont aujourd'hui à la pointe du domaine environnemental, contrairement à ce que l'on croit. Alors évidemment, ils ont des vieilles usines des années 70, 60, qui polluent terriblement. Mais toutes les nouvelles qui arrivent, ils les construisent dans des normes que les Américains ne respectent pas. C'est le New York Times qui le dit. Hein. C'est pas le Renjing Shibao, c'est pas un journal chinois, c'est bien un journal américain qui reconnaît que les normes chinoises sont plus contraignantes que les normes américaines.
Et pour les voitures aussi. Pour les voitures, c'est ça. C'est-à-dire qu'une voiture américaine ne franchirait pas les normes chinoises qui sont plus draconiennes.
Absolument. Ouais. C'est exactement ça. Elle ne les franchirait absolument pas. Et pourquoi les Chinois réagissent à ça? Parce qu'ils savent parfaitement que leur économie, leur développement passe par une meilleure efficacité environnementale. Mmh. Et un des articles que nous avons choisi dit cela, ce sont des Chinois là, qui le disent, et qui disent « nous devons impérativement nous secouer, nous prendre par la main pour polluer moins, parce que nous polluons trop pour produire, par exemple, une tonne d'acier ou une tonne de charbon, pour nous, ne produit pas assez d'énergie. Et nous devons améliorer notre efficacité, pas seulement pour Kyoto, pour notre économie, pour tout le monde, et en rappelant, ce qui est assez intéressant, dans cet article chinois, en rappelant que la planète est celle de tout le monde.
Oui.
Et donc les Chinois disent, nous sommes responsables.
Alors, on avait commencé à en parler la semaine dernière avec Eric Meyer, mais c'est très bien parce que vous avez aussi tout un chapitre sur les idées reçues. Et quand on dit c'est de la faute à la Chine, vous avez répondu. Quoi.
Absolument.
On ne peut pas réagir que de cette manière-là. Quoi.
Absolument. Et alors, s'il y a vraiment une chose que vous retrouvez à travers les articles de la presse mondiale et à travers les articles de courrier, c'est que la faute à la Chine, ce n'est pas comme ça que c'est perçu ailleurs qu'en Occident. Ailleurs qu'en Occident, quand vous lisez la presse, c'est la faute à l'Occident.
Oui, et c'est pour ça que c'est très bien de regarder ce courrier international, parce que ça nous change un petit peu de notre merveilleux nombril. On va aller dans quelques instants au Mali, on va aller en Suède, et puis on va poursuivre donc ce voyage avec vous, Eric Glover. Ce sera juste après cette chanson choisie par Muriel Pérez.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
So we meet again after several years of separation, moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Sing, oh, 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 oh. I can never belong. Shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up-tiptoe ballerina on the chorus line.
Pas que vous n'aimez pas, je ne vous croirais pas, auditeur de France Inter. C'était Kings of Convenience, donc un duo norvégien. Et on va partir cette fois-ci dans le Grand Nord. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais de petit Nord, hein. C'est toujours effectivement le Grand Nord. On va aller au-delà du cercle polaire, parce que Corto Fajal, qui est cinéaste, m'a adressé cette semaine un courriel. Il me dit, écoutez, je suis là-bas et je suis témoin de ce réchauffement climatique. Ce qui fait qu'on va aller à la fois dans le Grand Nord et aussi dans le Sud tout à l'heure, dans le Mali. Donc Corto Fajal, on vous a appelé.
Effectivement, je suis la transhumance des rennes avec les Samis, hein, donc qui est un peuple nomade du nord de l'Europe. Et alors actuellement, la transhumance d'ailleurs est interrompue, justement à cause d'un hiver horrible pour eux qui se prépare. Et il y a 5 jours.
C'est-à-dire que cet hiver-là, il fait 3 degrés au lieu de -10, hein, donc il fait très chaud.
Voilà. C'est ça, il fait très très chaud. Et alors la conséquence directe de ça, c'est même pas une histoire de 3 degrés ou -10, à la limite, c'est même une histoire de degrés. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une région où quand il fait -1, la neige reste de la neige, et quand il fait 0 degré, c'est de la neige et de la pluie. Ce qui fait que dès que c'est de la neige et de la pluie, de la neige et de la pluie, le sol gèle, et c'est impossible pour les rennes de trouver de la nourriture l'hiver. Et on est exactement dans ce cas de figure là aujourd'hui, c'est-à-dire que là la transhumance est interrompue, les rennes restent dans les montagnes puisque les Samis ne savent pas où mettre leurs rennes, ils n'ont pas de pâturage d'hiver puisque c'est un hiver qui a commencé comme ça, c'est-à-dire avec de la pluie et de la neige, et le sol est gelé, et il n'y a pas de nourriture. Donc là, actuellement, on est en plein dans l'actualité, puisque toutes les heures, ça change. On ne sait pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur reine, ils ne savent pas où les mettre. Voilà.
Et puis, il y a eu aussi l'obligation de traverser un lac gelé.
Oui, alors ça, c'était il y a 5 jours, donc il y a eu... on va dire, enfin pour eux, une catastrophe de mémoire de Samy qui n'est pas arrivée depuis une centaine d'années. Donc moi, j'étais avec eux pour filmer la traversée donc, d'un lac durant la transhumance hiver. Donc il y avait à peu près, le troupeau, c'était 3 000, 3 500 rennes hein, qui traversaient le lac. Et à un moment donné, donc les leaders, parce qu'il y a toujours des leaders qui traversent, les leaders ont refusé d'aller plus loin quand ils étaient à peu près à un tiers du lac. Et une fois qu'ils sont engagés sur le lac, les éleveurs ils n'ont plus de contrôle sur le troupeau. Donc ils ont vu le troupeau commencer à tourner et refuser d'aller plus loin, probablement parce qu'ils ont senti que la glace était trop fine. Et en fait, d'une certaine manière, ils ont à la fois voulu être prudents et en même temps, c'était déjà trop tard et la glace a craqué et tout le troupeau en entier a été immergé dans le lac. Donc la glace a craqué en gros, et donc c'est des images, enfin moi j'étais en face donc je filmais, c'est des images assez terribles puisque imaginez un troupeau de 3 500 rennes dans une espèce de bouillon mélangé avec de la glace.
Et puis la panique des animaux aussi, on imagine bien la panique des animaux, plus de 300 rennes donc ils sont restés, les autres ont pu traverser quand même.
Tout ça s'est fait assez vite. Hein. La plupart d'entre eux, normalement, les rennes savent très très bien nager. Ce qui s'est passé là, c'est qu'ils essayaient d'une part, ils se sont affolés, donc ils se sont blessés les uns les autres. Et ensuite, avec les morceaux de glace qui se trouvaient au milieu de l'eau, puisque tout était cassé, parfois même coupant, les morceaux de glace étaient tranchants. Donc certains n'arrivaient plus à nager ou essayaient de s'accrocher à des morceaux de glace qui étaient libres dans l'eau. Et au bout d'un moment, ce sont devenus des efforts physiques tellement terribles que certains abandonnaient en fait et ils sont effectivement morts noyés. Quoi.
Quant au Fajal, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a un changement de civilisation évident. Cette civilisation du Rennes, en tout cas dans ce coin-là, va être obligée d'évoluer.
Alors c'est exactement la question qui se pose actuellement, puisque faut savoir que le renne est un animal qui a côtoyé le mammouth laineux il y a des millions d'années. Donc il a survécu à toutes les périodes de glaciation, toutes les périodes de réchauffement, etc. etc. C'est un animal relativement vieux et aujourd'hui, d'une certaine manière, se pose des questions terribles. On voit ce que je disais tout à l'heure, cet hiver, on ne sait pas où trouver des pâturages pour que les rennes puissent se nourrir. Effectivement, il y a peut-être un mode de vie, un mode séculaire pour ces éleveurs qui ont une vie semi-nomade, multiséculaire, qui doit être remis en question, mais pour l'instant, ils n'ont pas de solution. En fait, ils n'ont aucune prise là-dessus. Ils se sont adaptés tout le temps aux changements au travers des époques, mais là, le temps, ils n'ont aucune prise là-dessus. Ils sont complètement impuissants, ils le subissent. Ce qui est très drôle d'une certaine manière, c'est qu'on parle, nous, dans nos sociétés un peu occidentales, de ce que deviendra notre monde avec le réchauffement climatique, puisque pour nous, ça n'est que de la prospective et de la perspective, alors que pour eux, ça fait déjà quelques années que c'est concret, que les bouleversements climatiques, ils les subissent tous les jours.
Merci, Quentin Fajal, pour ce témoignage. Donc les rennes, le peuple Sami, mais aussi, on le sait, les Maldives, Tuvalu, bientôt tout ce petit monde-là, donc réfugiés climatiques. Alors, Eric Glove aussi, puisque dans Courrier International, on passe vraiment d'un continent à l'autre. L'Himalaya, donc ce toit du monde qu'on appelle aussi le troisième pôle, ça fond une vitesse dingue. Là.
Dingue, oui. Alors, on a mis une carte pour que l'on voit que l'Himalaya est à l'origine des bassins versants de tous les grands fleuves de l'Asie, ou quasiment la totalité. Et l'Asie, c'est 3 milliards de personnes. C'est aujourd'hui la moitié de l'humanité. Ce qui veut dire que la fonte des glaces dans l'Himalaya, ça a des conséquences sur l'ensemble de la vie de 3 milliards de personnes. C'est affolant. Alors, par exemple, la crise du Tibet, si les Chinois tiennent tellement au Tibet, c'est pour des raisons politiques, historiques, mais c'est aussi pour des raisons écologiques. C'est là qu'est l'eau. Donc, ils veulent avoir un contrôle des sources d'eau, c'est clair. Et une des choses qui revient sur le témoignage que l'on vient d'entendre, c'est un papier de Himal, qui est un journal népalais de Kathmandu, qui dit à un moment, les gens, ils comprennent bien, ils savent que c'est lié ce qui leur arrive. Ils ont des inondations brusques, des lacs qui, d'un seul coup, se vident, donc les rivières dévalent et détruisent tout. Et ils ne comprennent pas. Il y a un autre... exemple extraordinaire qui est un lac qui est apparu. Voilà, un lac qui est apparu sur des kilomètres. Mais pas très bien pourquoi.
Même en Suisse, ils ont purgé il n'y a pas tellement longtemps aussi un lac avec un lac qui menaçait de péter. Quoi.
Absolument. C'est très dangereux. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour de l'énergie hydroélectrique, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de problématiques. Et ce qui se passe, c'est que les gens savent, ils sont informés, les Népalais, que c'est le réchauffement climatique. Ce qu'ils ne savent pas, c'est comment, pourquoi, ils ne connaissent pas bien les explications.
Bah, les dieux, souvent.
Non, voilà. C'est ça. On parle des dieux, ou on essaye de comprendre. Alors ensuite, c'est complexe. L'information n'est pas bien reliée. Il y a un certain nombre d'enjeux. Mais ce qui est intéressant, c'est ils sont tous prêts à faire quelque chose.
Alors, dans un registre différent, on va partir en Bolivie. Et là, il y a eu un tribunal international de justice climatique qui s'est créé. Alors, c'est pas, je veux dire, qu'ils n'ont pas le pouvoir, je vais dire, légal. Mais quand même, c'est très intéressant, cette affaire-là.
Oui, c'est intéressant. D'abord, c'est intéressant parce que, c'est pas Rina Doce qui en parle. C'est un journal argentin, très à gauche, mais très intéressant, et qui donne la voix, alors, de ces gens qui se sont réunis en Bolivie, qui sont aussi des Occidentaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des Boliviens dans leur coin, ce sont des grandes associations. Il y a une association irlandaise, il y a une association américaine. Enfin, il y a plusieurs grandes associations, ONG, qui sont réunies pour essayer de juger les crimes climatiques en disant, après tout, on nous enquiquine avec une CPI, une Cour pénale internationale pour les droits de l'homme, pour les crimes contre l'humanité. Et ils disent, s'il y a bien un crime contre l'humanité, c'est de virer les Bangladeshi de chez eux, c'est de détruire les Vanuatu ou les Maldives. Qu'est-ce qu'on peut trouver de crime contre l'humanité plus grave que de détruire le pays, la source de vie des gens? Donc, on va essayer de juger ça. Et alors, dedans, il y a un exemple qui est intéressant. C'est un des crimes qu'ils jugent, c'est les gens qui veulent venir planter des arbres au Mexique, au Brésil, en Bolivie, parce que ils vont polluer par ailleurs en émettant des gaz à effet de serre.
Nos indulgences modernes.
C'est ça, nos indulgences modernes. Cette espèce de compensation. Et eux, ils disent, mais attendez, arrêtez-nous. On a assez d'arbres chez nous. On n'en a pas besoin de vos arbres. Ils disent, si vous voulez planter des arbres, plantez-les dans votre cour, chez vous. Voilà, vous avez qu'à avoir moins d'immeubles, il y a des plus grands jardins, plantez les arbres chez vous, faites pas d'autoroute, et puis plantez-les chez vous. Mais arrêtez de venir nous enquiquiner, ça c'est un crime colonial. Ouais. Quelque part, on est revenu un siècle en arrière. Et ça donne à réfléchir.
Eric Glover, on va partir cette fois-ci au Mali avec un autre témoignage donc du réchauffement climatique. On va rencontrer Soloba Madi Keïta, qui est paysan, qui produit du coton, du maïs, du mil. Donc on est au sud-ouest du Mali, et là aussi, réchauffement climatique, on est en plein dedans.
Le réchauffement climatique se traduit chez nous par un certain nombre de constats. Il faut d'abord noter qu'il y a tantôt la raréfaction des pluies, c'est-à-dire que les pluies se font rares, ou alors il y a des inondations et il y a aussi de très fortes températures que l'on constate qui, et dans le temps, annonçaient plutôt la pluie, mais qui ne le font plus. Il y a aussi que nous constatons qu'il y a une bonne partie de nos petits cours d'eau qui sont en train de disparaître suite à l'érosion qui entraîne beaucoup de terre dans les lits des petits cours d'eau. Il y a l'abaissement du niveau de la nappe phréatique, donc le creusement des puits devient vraiment problématique actuellement. Et nous constatons aussi la disparition de certaines espèces d'arbres, donc l'avancée du désert. Les sols deviennent de moins en moins fertiles.
Ce que l'on entend, c'est que la pluie arrive avec à peu près un mois de retard et ne va pas se prolonger pour autant. Donc vous êtes obligé de changer vos habitudes agricoles. Le désert avance et la vie se déplace vers le sud. Et les animaux meurent de soif. Ils sont aussi obligés de se déplacer.
Bon, les animaux se déplacent parce que il y a l'assèchement des petits cours d'eau. Les petits cours d'eau autour des villages, c'était là où s'abreuvaient les animaux. Et pendant la saison sèche. Mais il se trouve que maintenant, l'eau ne s'arrête plus dans ces cours d'eau. Et dès qu'il pleut, toute l'eau traverse parce que, et puis, au bout de quelques jours, il n'y a plus d'eau dans ces marigots-là. Donc, les animaux sont obligés de se déplacer vers les zones où il y a les grandes rivières et les fleuves tels que le Bakoy, le Sénégal, et ainsi de suite.
Et ça peut aussi entraîner un peu de déforestation, le fait que les animaux donc aillent ailleurs.
Ah oui, ça entraîne la déforestation parce que le déplacement de ces troupeaux, il y a que, et on coupe beaucoup d'arbres, parce qu'il y a des espèces d'arbres qui sont vraiment appréciées par les animaux. Donc, à leur passage, eh bien, les bergers coupent beaucoup d'arbres. Et aussi, quand ces branches d'arbres tombent au milieu des herbes, ou quand ça s'assèche, au bout d'un certain temps, les feux de brousse font que, eh bien, pratiquement, tout le couvert végétal est détruit au niveau de ces zones-là.
Soloba Madikeïta, le fait qu'il y ait des terres moins fertiles, que cela vous oblige à utiliser davantage d'engrais?
On est obligé parce que les terres étant de moins en moins fertiles, et il faut utiliser beaucoup plus de fumure organique, il faut utiliser beaucoup plus d'engrais chimiques surtout. Et l'engrais chimique coûte très cher, donc pour les paysans c'est vraiment un vrai problème.
Que pensez-vous de l'aide, aide entre guillemets quand même, apportée par les pays du Nord?
On dit beaucoup de choses, on promet beaucoup de choses, mais la réalité est qu'il y a très peu de choses qui nous arrivent finalement. On élabore des programmes avec des coûts et puis il y a des experts aussi qui font des calculs qui disent qu'il faut un certain nombre de montants d'argent hein, pour permettre aux pays développés et sous-développés hein, de s'adapter au changement climatique. Mais la réalité c'est que rien de tout ça pour le moment n'est concret. Toutes ces bonnes paroles que nous sommes, qu'on est en train d'entendre, il faut les concrétiser. Et nous, on le dit chez nous, au lieu de mettre du miel dans l'oreille de quelqu'un, il vaut mieux lui mettre un peu sur la bouche.
Voilà, c'est joli cette affaire-là. Bon, il y a une réalité qui est forte. Alors, un autre homme, je dirais qu'un peu dans cette même veine que vous soutenez aussi dans Courrier International, c'est Abdourahmane Ouaberi, qui est écrivain de Djibouti, qui est dans la veine lui aussi des poètes visionnaires comme Édouard Glissant, qui nous rappelait bien avant qu'on en parle que la Terre est une île. Et donc, il pointe bien le fait que plus on est pauvre et plus on est vulnérable. Autre pays, les USA, un petit focus rapide sur le Texas.
Oui, alors sur le Texas, parce qu'on s'y attend pas. Et le Texas est le premier État des États-Unis en production d'énergie éolienne, donc une énergie renouvelable.
Californie, voilà. Panneaux solaires et eux éoliennes.
Exactement. Oui. Et on a un papier extrêmement intéressant qui montre comment l'éolien a décollé au Texas parce qu'il n'y a pas de réglementation et comment le solaire a pu bien fonctionner en Californie à cause de la réglementation et que les États-Unis sont à hésiter entre un modèle de non-réglementation ou un modèle de réglementation, mais que dans les deux cas, on peut faire du renouvelable. Un détail. L'homme qui a lancé l'énergie éolienne au Texas était le président des États-Unis, gouverneur de l'époque, George W. Bush.
C'était Bush. Copenhague et après, ça c'est la première partie de ce dossier. D'un continent, l'autre, ben là on a entre guillemets hein, picoré sur différents pays. Et puis aussi l'avenir, il y a des raisons d'espérer, chaud l'avenir.
Oui, il y a des raisons d'espérer. Alors il y a déjà une première raison d'espérer, c'est un très beau papier à mes yeux, qui est un papier qui sort du Dominion Post, un article, un journal néo-zélandais, et qui est un ancien vice-premier ministre néo-zélandais, qui dit que pour les îles du Pacifique, toutes ces îles qui risquent de disparaître, eh bien, il y a un devoir éthique des pays riches de devoir faire quelque chose. Que ce soit un pays voisin de ces îles qui le dise, nous devons faire quelque chose. Il prend une belle image au moment où on va affronter ce soir les Samoa en rugby. La France va affronter les Samoa.
On aura le droit de mettre les mains là cette fois-ci.
Voilà, on aura le droit de mettre les mains là. Même c'est même recommandé dans ce cas-là pour une fois. Eh bien, là, en l'occurrence, ce qu'il dit, c'est OK, quand ils arrivent pour devenir de nouveaux All Blacks, on est content. Mais ils peuvent pas tous être des All Blacks. En revanche, beaucoup d'entre eux auront besoin de nous. Nous avons un devoir moral. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a ça, parce que ça veut dire que la prise de conscience, elle est là. Et c'est ce que Courrier voulait montrer, c'est que c'est absolument pas perdu. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est ça. C'est il y a partout des gens qui se lèvent en disant « on est prêt à faire quelque chose ». Alors, toute la dernière partie, c'est ça. On a de très beaux exemples. On a l'exemple d'un Indonésien qui a eu Will Smith, qui a décidé de mettre sa fortune pour reconstruire une forêt. Alors, on parle toujours d'Indonésie sous l'angle de la déforestation. Ben, lui, il a décidé de faire l'inverse. Il a reconstruit, il a dit aux gens « voilà, je vais payer, vous allez reconstruire, vous allez avoir des cultures vivrières, vous allez avoir des cultures de rente, donc pouvoir vendre, ça va vous faire de l'économie. Et puis, vous allez avoir encore à côté, un système où on va faire une forêt avec 1600 espèces différentes.
Et les orang-outans sont contents.
Voilà. Et les orang-outans sont revenus. 137 espèces voilà. D'oiseaux, les orang-outans. Mais quand les orang-outans, les oiseaux reviennent, ça veut dire que des tas d'autres espèces sont revenues. Il y a aussi un très beau papier sur comment on restaure les coraux, ce qui permettra de garder de la couleur dans la vie. Et de la couleur dans la vie, c'est aussi ça que Courrier International voulait donner à ses lecteurs.
Alors si vous voulez donc une pointe de soleil dans cet univers, donc à la veille de Copenhague, climat, pourquoi la planète sera sauvée, un grand merci Eric Glover. Merci bien sûr à tous les correspondants donc, de Courrier International. Et puis aujourd'hui à Anne-Charlotte Guillem, Dimitri Gronoff à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pessugia qui réalisait cette émission.
Merci beaucoup.